Vous écoutez SU Squatel. Bonjour tout le monde, vous êtes sur les ondes de CKIA FM 88,3, vous êtes en compagnie de l'équipe d'Ainsi Squatel et aujourd'hui une émission spéciale sur le mouvement Occupons Wall Street, Occupons Québec, Occupons l'Espagne. Vous savez que c'est un mouvement mondial et on avait envie de se pencher sur ce mouvement-là à Ainsi Squatel, mais dans une perspective féministe et libertaire, bien évidemment, vous nous connaissez. Donc bonjour tout le monde, allô Marie, Evelyne, Tiffaine.
Allô!
Et moi-même, Hélène Nazon, derrière le micro, en compagnie des deux autres Nazons, soit Carlos et Jasmine, qui sont avec nous. Donc, aujourd'hui, pour l'émission, on va commencer d'abord, partons du local, donc une entrevue que Marie a réalisée avec Pascal Marie, qui est une occupante d'Occupons Québec. Ensuite, Tiffaine et moi, on va vous parler, en fait, on va aborder le mouvement Occupons tout le monde, Occupons le monde, dans une perspective anticoloniale. Vous allez voir qu'il y a différentes manières d'aborder ce mouvement-là, parce qu'en fait, il est multiforme. Hein, ça a commencé il y a 6 mois en Espagne. Ensuite, aux États-Unis, ça fait un peu plus de 2 mois, ils ont emboîté le pas. Puis bon, vous connaissez la suite, ça pullule un peu partout. Et évidemment, ce mouvement-là est multiforme et pluriel, donc les gens... différents moyens d'action, différentes revendications aussi qui sont mises de l'avant, ce qui nous amène, entre autres, à la fin de l'émission, en fait, avec Evelyne, à parler d'émeutes, donc de réactions peut-être un peu plus directes face aux arrestations qu'il y a eu, plus spécifiquement, plus généralement aux États-Unis. Donc, on commence tout de suite en musique, avec le choix musical toujours de Marie. Qu'est-ce que tu nous as préparé?
On écoute Gigi, une chanteuse éthiopienne. La chanson s'intitule « J'ai là ».
Para entender
Toujours sur les ondes de CKIA FM à l'émission Ainsi Squat-t-il, où ce soir on parle d'occupation. Et pour parler d'occupation, on a invité en différé Pascale Marie, qui est donc une indignée du mouvement Occupons Québec et puis qui campe depuis 3 semaines là-bas. Donc j'ai réalisé une entrevue avec elle hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et on va pouvoir l'entendre dès maintenant. Bonjour Pascale Marie.
Bonjour.
Donc tu es indignée depuis 3 semaines, tu campes à Occupons Québec, puis j'aimerais ça que tu puisses nous dire un petit peu comment c'est né le mouvement à Québec, comment ça se passe. Donc,
Au début c'est parti un peu à l'université, des étudiants qui ont monté une page Facebook pour essayer de rassembler des gens en fait via ces médias un peu sociaux. Et du coup, moi, je me suis dit, pourquoi pas aller voir si ça existe à Québec. Je me suis un peu renseignée, j'ai googlisé et je suis tombée sur Occupons Québec. Et donc, du coup, j'ai rejoint la deuxième AG au début du mois d'octobre. Mm-hmm. Et de là est parti le mouvement à peu près. Voilà.
Bien, bien. Donc, puis toi, tu t'associes vraiment ça, disons, à un mouvement international, puis... Par rapport à Québec, est-ce que tu as vu des différences par rapport à la façon dont ça s'est passé ailleurs?
En fait, j'avais commencé à voir ça en Europe avec le mouvement des indignés. Et c'est clair que la logique est un peu différente parce que ça a vraiment campé tout de suite en fait en Europe. Et à Québec, il y a eu un moment où on s'est dit est-ce qu'il faut camper? Est-ce qu'il faut simplement se réunir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce mouvement se rende visible? Donc c'est parti le 15 octobre d'une première rencontre, place Diouville, À ce moment-là, on n'était pas forcément prêt à camper. Et puis, à la deuxième rencontre, des personnes ont planté leur tente et c'est passé de 3 à 40 tentes en une semaine, quoi.
En une semaine, ça a été assez rapide.
Ça a été assez rapide.
Ouais. Puis donc, toi, tu as passé beaucoup de temps là-bas depuis ce 15 octobre, depuis que ça a commencé. Puis est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu l'organisation, justement, de la vie quotidienne, finalement, dans les camps?
Alors du coup, en fait, on va dire que c'est assez complexe parce qu'il y a la vie du campement et puis il y a la vie autour du campement. Donc autour du campement, on a quand même pas mal de comités qui réfléchissent sur des questions politiques, sur des questions médiatiques et qui essayent d'organiser un peu le mouvement autour du campement. Et puis il y a ceux qui vivent concrètement dans le campement, qui se réunissent à chaque soir pour décider concrètement comment on s'organise au jour le jour. Ou pour le lendemain dans le campement. Donc c'est simplement proposer une personne antenne qui va gérer la journée du lendemain, proposer quelqu'un qui va faire la sécurité la nuit, trouver des personnes pour rouler, voilà. Puis s'organiser par exemple pour l'hiver, s'organiser pour les tâches de cuisine, tout ça. Et donc ça se décide le soir en fait en AGI, on appelle ça, à l'assemblée journalière. Voilà.
Okay. Donc c'est à chaque jour que ça se décide.
Ouais, exactement. Parce que comme il y a une rotation quand même qui est importante, voilà, c'est important de pouvoir en parler à chaque soir. Voilà.
Bien. Puis parce qu'on est à un Siskoïtel là dans cette émission-là, c'est sûr que on serait intéressé de savoir, tu sais, les relations de genre, comment ça se passe dans le campement, est-ce qu'il y a des modes de fonctionnement particuliers qui font en sorte qu'ils puisse y avoir des relations égalitaires qui s'installent entre hommes et femmes. Est-ce que c'est des réflexions qui existent dans le campement déjà ou...
Alors en fait, c'est marrant parce que c'est pas formellement abordé. Par contre, on voit très nettement qu'il y a une organisation qui se fait peut-être un peu dichotomisée, où les femmes ont plusieurs rôles qui sont dévolus aux femmes en général et les hommes des rôles qui sont dévolus aux hommes. Mais par contre, en fait, contrairement à ce qui est dit dans les médias en général, bah, par exemple, il est possible de trouver une femme et un homme qui font la vaisselle ensemble, donc c'est assez intéressant. Mm-hmm. Mais par contre, c'est au niveau des décisions, il y a vraiment une différence de comment les gens en fait s'imposent dans le processus. Donc les hommes en général imposent vraiment leur point de vue et ont tendance à pas forcément toujours écouter les femmes, mais en même temps se reposent beaucoup sur elles pour transmettre les informations. Donc du coup c'est intéressant, ça renivelle un petit peu les relations de genre, mais voilà, on n'a pas tous les mêmes rôles en fait.
Ouais. Puis ça c'est pas forcément des dynamiques spécifiques au campement, enfin, ouais. Je pense que la langue macho, puis le fait d'accorder plus de crédit à un homme quand il parle, c'est pas spécifique à ce lieu-là.
C'est ça.
En tout cas.
C'est ça, mais en même temps, je crois que je parlerai à titre personnel. Par exemple, j'ai été beaucoup médiatisée à un moment donné parce que justement, j'avais peut-être une manière plus calme d'apporter des points et moins, on va dire, engagée. Enfin, du moins, j'essayais de le faire passer comme ça. Et peut-être que c'est ça qui mettait les différences, en fait, pourquoi j'étais interrogée et moins les hommes à un moment donné, et puis maintenant, pourquoi c'est plus les hommes et moins moi, enfin, voilà, c'est en fonction des discours qu'on veut pouvoir avancer, en fait, mettre en avant aussi, je pense.
Ouais. Voilà. Puis c'est ça, par rapport à ton expérience, justement, de vie au campement, là, depuis quand même quelques temps, qu'est-ce que tu vois qui ressort dans les médias, enfin, ça paraît... J'imagine assez évident là que ce qui ressort dans les médias, surtout mainstream, ça va être bien différent de ce que tu vois, de ce que tu vis dans la réalité. Donc c'est quoi les points saillants de ces différences-là ?
Ce qui est vraiment fou là, c'est que les médias abordent que des faits divers en fait. Donc ce qui va les intéresser, c'est combien de tentes on a démonté, comment on a réaménagé le campement, qu'est-ce qu'on a pu faire en fait pour améliorer la vie du camp ou pour ne pas l'améliorer. C'est parler de Monsieur Perron qui vient tous les jours avec une gang de policiers pour nous enlever du matériel. Et du coup, c'est ne pas parler du fond, quoi. Donc les médias, là, ils sont en train de vraiment faire de la désinformation et de participer, en fait, à l'oppression à la fois, on va dire, politique et médiatique qui est en place actuellement, quoi. Et ça, c'est vraiment navrant, je pense. Donc on essaye toujours de récupérer le fond du problème, de le rappeler, en fait, aux médias, mais vu que c'est toujours des montages, qu'on nous prend 30 secondes alors qu'on a parlé 15 minutes avec eux, que c'est voilà, c'est simplement des petits extraits qui sont pris, qui sont remontés et qui ne sont pas du tout fidèles à la réalité. Donc moi, je les appellerais surtout à venir un peu plus longuement au campement, à passer des journées avec nous et à voir ce qui se passe concrètement et à ne pas utiliser de faux mots pour expliquer ce qui se passe, quoi. Parce que quand on nous parle d'avis d'éviction alors qu'on a un avis de démantèlement des installations dangereuses, il y a quand même une différence notoire, quoi. Donc on est toujours au campement, on a enlevé les installations dangereuses et on ne partira pas.
D'accord. Puis c'est vrai que je pense que aussi dans le discours des médias, justement, de parler des faits divers et tout ça, c'est pour dépolitiser le mouvement. Ça s'est entendu quand on parlait de finalement, c'est une gang de fumeurs de potes qui sont là. Ça vise aussi à dépolitiser
le mouvement
clairement et les revendications.
Bien sûr. Mais alors là, je pense qu'il y a deux types de médias. Il y a aussi. Ce qu'on appelle les radios poubelles, qui font vraiment de la très grosse désinformation en disant qu'on est des BS, des kids, des fumeurs de potes, des antisémites ou quoi que ce soit. Et c'est pas du tout le cas, quoi. Quand on vient au campement, on s'aperçoit très bien qu'il y a une certaine mixité sociale, mais que de ces préjugés, quoi.
Et puis le deuxième type de médias que tu définirais, t'as les radios poubelles, puis t'as...
Bah après, c'est les médias mainstream, justement, qui continue à perpétuer en fait cette oppression du haut vers le bas en fabriquant un consentement, en parlant de nous d'une certaine manière et en donnant une image qui est complètement fausse, mais qui va rentrer dans la tête des gens parce qu'ils ont la possibilité de rentrer dans l'intimité des gens en allant directement chez eux avec la télévision. Et donc du coup, il y a vraiment un décalage entre la réalité qu'on vit au campement et ce qu'on va pouvoir dire de nous, quoi. Comme les gens ont tendance à ne pas sortir de chez eux et à penser que c'est ici qu'ils vont pouvoir avoir de l'information grâce à ces médias-là, ils ne se rendent pas du tout compte de la réalité du mouvement et notamment de l'essence même du mouvement. Pourquoi on fait du campement et pas du camping? Pourquoi à un moment donné on occupe un espace public et pas simplement on est là à faire la teuf comme les gens peuvent dire, quoi. Voilà.
Puis peut-être j'aimerais revenir sur, vous êtes allé au conseil municipal, je pense, la semaine dernière. Puis justement, une des propositions du maire, c'était de vous inviter à ne plus camper, mais à venir là seulement la journée, finalement, donc le matin, du matin au soir. Puis qu'est-ce qui a été répondu justement par rapport à ça ?
Et moi, ce qui m'a bien fait sourire, c'est que le maire, en gros, nous disait « Moi, j'agis en politique parce que je suis indignée ». Et il a vraiment parlé de l'agir. Et je crois qu'à un moment donné, manifester, c'est pas de l'agir. Parce que c'est simplement une fenêtre d'ouverture où on s'exprime, mais on s'exprime dans un court laps de temps. Et donc, du coup, on n'est pas dans l'action, justement, en train de faire des choses. Et là, ce qu'on est en train de proposer, c'est un agir concret. On occupe l'espace public en disant, on peut faire des choses concrètement sur place, on peut s'autogérer, on peut être autonome, on peut être démocratique au vrai sens étymologique du terme. Et donc c'est ce qu'on a répondu au maire. On lui a dit qu'à un moment donné, il y avait une différence entre manifester et occuper un espace. Il semble simplement ne pas comprendre. Mais il semble pas comprendre parce que c'est une des personnes aussi qui participe à cette société qu'on dénonce, quoi. Donc c'est quelqu'un qui a des conflits d'intérêts notoires. C'est quelqu'un qui à un moment donné prend des décisions au nom de tous sans forcément... avoir l'avis de tous. Donc du coup, voilà, je pense qu'il est vraiment à remettre en question.
Representing a beautiful nation, and I know we'll not get no form of justice since we left the planet. them no want to see you rise. Rise, get so use Roy. You know too got no choice. Rise, get so use Roy. Them no want to see you rise. Rise, get so use Roy. Tell me why you not the garrison, we can't get no peace. How every day we have to run from police. Why politics no help suffer us? And when we vote the most, I will still get the least. And when since alcohol gets so cheap, how it full up in the dance, I will leave. Why me uncle only get to chop your yard? Oh, come and help a walk alone, you got to anti-mad. Rise, get so you rise. Them no want to see you rise. Rise, get so you rise. You not too got no choice. Rise, get so you rise. Them no want to see you rise. Them again lie down under the bed, cause somebody a go dead now. Long one up a cherry garden, only amongst the people them we don't got a farting. They don't care or pretend, them a pretend. Why you go out in a cockburn pen? Alright, rust get so use rise. Them no want to see you rise. Rise get so you rise. You no two got no choice. Them no want see you rise. Rise, get so you rise. Who's that knocking on my door? Who's that ringing my bell? Who's that knocking on my door? Danger.
Vous écoutez CKIA FM et on vient d'entendre Queen Eye Freaka, super chanteuse de reggae qui chantait Rise Ghetto Youth. On poursuit avec un petit bout d'entrevue avec Pascal Marie, qui est donc indigné du mouvement Occupons Québec, qui nous parle un peu des activités qui s'y passent.
Si on veut en savoir plus, Pascal Marie, sur les activités qu'il y a au campement, où est-ce qu'on peut s'informer?
Alors déjà, on a un site web qui s'appelle Occupons Québec, où il y a toutes les informations dessus. On peut aller chercher des documents écrits qui expliquent ce mouvement, pourquoi ce mouvement. On peut aller chercher un calendrier qui explique toutes les activités, notamment les midi-conférences qu'on fait. À chaque midi, en fait, une personne, soit un universitaire, soit quelqu'un d'engagé dans la vie politique, soit une personne lambda qui a un savoir, par exemple, à partager, vient en fait faire une conférence, et les gens des bureaux autour et les gens qui ne sont pas forcément aussi des bureaux viennent partager ce moment-là, échanger un savoir et discuter à propos d'un sujet en particulier. On a aussi d'autres activités du type... On a CKRL par exemple qui va venir faire une émission en direct au campement vendredi. Mm-hmm. On a tous les samedis en fait des AG avec des animations, des artistes engagés qui viennent participer avec nous à faire des festivités en fait, et puis à discuter aussi de problématiques actuelles quoi.
D'accord, voilà. Donc le site c'est occupantsquebec.org.
C'est ça.
Puis l'AG du samedi c'est à 15h.
C'est à 15h tous les samedis. Voilà, une AG où on fait un peu le bilan de ce qu'on a fait et où on construit lentement ce que l'on a envie de faire par le futur. C'est-à-dire qu'on est dans une autre temporalité, on ne va pas aussi vite que les médias aimeraient qu'on aille, ni les politiques d'ailleurs, et on prend le temps concrètement de proposer des choses cohérentes et avancer.
D'accord, ben, merci beaucoup pour cette entrevue.
Merci.
Donc c'était une entrevue avec Pascal Marie, qui est une indignée qui campe, mais qui ne fait pas de camping à la place de l'Université du Québec depuis plusieurs semaines, qui a été interviewée cette semaine par Marie. Donc, il y a du nouveau à Occupons Québec cette semaine, mais avant de vous en dire un petit peu plus, je veux juste préciser que le site web d'Occupons Québec, pour trouver le bon, il faut taper Occupons sans S. Donc, c'est O-C-C-U-P-O-N Québec. Donc, faut laisser faire le S pour tomber sur le bon site. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, il y a une heure à peine, on a reçu pour plusieurs d'entre nous un appel à une mobilisation générale pour demain matin à 8 heures parce que le campement d'Occupons Québec a reçu encore une fois aujourd'hui un ordre de démanteler le campement. Donc, ça semble être une stratégie à répétition qui est utilisée par notre maire préférée. Cette fois-ci, le problème, c'est la non-conformité au règlement d'urbanisme. La dernière fois, on parlait de la sécurité des manifestants et manifestantes. Cette fois-ci, il semblerait que les structures de la cuisine collective qui est sur le site et qui est conforme aux règles de sécurité, par contre, n'est pas conforme aux règles d'urbanisme. Donc, c'est bien dommage. Les gens d'Occupons Québec nous invitent donc tous et toutes à nous joindre à eux et elles demain matin à 8 heures ou encore ce soir à partir de 17 heures. Donc, c'était il y a 25 minutes. On nous invite à l'Assemblée générale pour discuter de cette situation d'urgence. Donc, voilà. Le message est lancé. Faites passer. Alors, on va poursuivre en musique. Marie, oui. Qu'est-ce qu'on écoute?
On écoute Tilbury Corporation et Sister Nancy, donc une chanteuse, et la chanson s'appelle Originality.
les ondes de CKIA FM, vous écoutez toujours Ainsi Squat-t-elle. Aujourd'hui, on parle du mouvement Occupons un petit peu partout dans le monde. On vient entendu avant cette pièce musicale des extraits d'entrevue avec une indignée de Québec. Et maintenant, on va peut-être parler un peu moins d'occupation et un peu plus de décolonisation parce que, donc Hélène et moi, Tiffaine, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques qui ont été amenées dans différentes villes où il y a un mouvement d'occupation qui a été lancé. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui trouvaient que le choix des termes était un petit peu malheureux. Donc, qui ont proposé d'autres alternatives, comme, ben là, ça s'est surtout fait dans des endroits anglophones, comme Unsettling, Unoccupy, puis Decolonize. Donc, rapidement, les critiques viennent à différents endroits, sont venus de différents groupes. Par exemple, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, les gens où il y a une forte population autochtone qui était très impliquée dans le mouvement, ils trouvaient que le terme « occupation » était assez problématique et en Assemblée générale, finalement, les gens de Occupons Albuquerque ont décidé de s'appeler « Unoccupy Albuquerque ». Et puis, en gros, ce qu'ils expliquent, c'est que les États-Unis, ce qu'on connaît comme étant les États-Unis d'Amérique et par le fait même le Canada, c'est en fait déjà des terres occupées et qui ont été occupées par les pouvoirs coloniaux depuis 500 ans. Et puis
d'où
des...
l'aspect problématique, justement, de se réclamer d'occupants. Parce que, oui, continue.
Oui, c'est ça. Mais en fait, comme ça fait 500 ans que non seulement les terres, mais aussi les ressources, les cultures, les voix des peuples autochtones ont été occupées par les pouvoirs coloniaux européens, donc que ce soit la France, l'Angleterre, l'Espagne. Et puis, ils font remarquer qu'il y a une grande, grande partie des 99% qui a été très bien servie par cet arrangement-là. Puis, il y a une plus petite partie qui a été carrément desservie et qui subit de l'exploitation. À cause de cette occupation-là qui est déjà en place, qui est toujours en place puis qui est rarement remise en question. Donc, c'est ça, il y a plusieurs villes qui ont fait ces réflexions-là et plusieurs plus petits groupes dans différentes villes qui n'ont pas changé de nom, mais où il y a quand même une critique qui est présente. Donc, pour parler un petit peu de ça, je vais vous présenter quelques pensées d'une fille qui s'appelle Anna Ackman, qui est une personne avec qui j'ai eu l'occasion de rencontrer à la Nouvelle-Orléans, qui est super cool et qui a un blog qui s'appelle Constructive Deconstruction. Voilà. Et puis, donc, elle a écrit un texte qui s'appelle « La décolonisation d'une femme africaine d'héritage mixte », ma traduction libre est peut-être un petit peu inexacte, et où elle parle donc de sa réaction aux différents changements de nom qu'il y a eu, qui est un mouvement qu'elle appuie. Et puis, elle pense que particulièrement le terme « décolonisons », telle ou telle ville est super intéressant parce que la décolonisation, ça peut signifier la libération pour tout le monde et pas seulement, dans le fond, ça inclut tout le monde, pas seulement les personnes qui ont été victimes de la colonisation par les pouvoirs coloniaux. Donc, elle raconte un petit peu son histoire personnelle pour expliquer ce qu'elle considère comme étant son histoire personnelle de décolonisation. Elle qui est née d'un père qui vient des États-Unis et d'une mère qui vient d'Éthiopie et qui a vécu donc à l'intersection de plusieurs plusieurs systèmes d'inégalité, donc en étant une femme noire aux États-Unis qui a vécu dans un milieu assez défavorisé. Donc, elle raconte un petit peu son histoire et puis elle en vient à la conclusion qu'on a tous et toutes une histoire de colonisation, même si on n'a pas été victime de cette colonisation historique-là. Et puis que n'importe qui se considère comme étant à la marge de certaines structures capitalistes peut considérer avoir été colonisé, que ce soit parce que sa terre a été colonisée ou son corps, son esprit, ou un heureux mélange de tout ça. Et puis, elle encourage tout le monde à faire un cheminement vers la décolonisation parce que ça lui semble être une des étapes vers une décolonisation plus collective et généralisée. Donc, tout ça pour dire que c'est des réflexions que moi, je trouve qui sont intéressantes parce que ça s'applique pas seulement... C'est peut-être que c'est moins pertinent de dire « Ah, il faut qu'on s'appelle... »
des occupants au Québec, peut-être parce que peut-être que c'est pas la chose qui est venue, qui semble prioritaire aux campements d'Occupons Québec, mais c'est aussi des réflexions qui peuvent se faire de façon individuelle ou en plus petits groupes pour en arriver à remettre en question l'hégémonie raciste et sexiste qui est partout dans notre société, mais qui, on l'a vu un petit peu avec l'entrevue de Pascal Henry, qui peut être encore plus concentrée dans un campement où toutes les structures sociales se retrouvent quand même reproduites, puis à la limite exacerbées. Donc,
ce qui est intéressant, justement, dans des mouvements comme ça, je pense, c'est d'être confronté à nous-mêmes. En tout cas, moi, je trouve que c'est une réflexion qu'on avait eue au squat 1920 de la Chevrotière aussi, parce que quand on est en dehors d'un mouvement comme ça, c'est facile de dire, ben c'est la faute de l'État ou c'est la faute des compagnies ou des hommes d'affaires. Mais quand on s'organise au sein d'un espace autogéré, puis que là, ah! On regarde dans la division des tâches que c'est les filles qui vont faire plus le caring, hein, l'accueil des personnes qui viennent visiter, que ce soit un squat ou le campement, même au niveau de la gestion, de la logistique, de penser à la bouffe, etc. Puis que, ben quand il faut des porte-paroles médias, quand c'est le temps de penser à théoriser ce qu'on est en train de faire ou à écrire des textes, comme par hasard, c'est plus des gars. En tout cas, c'est quelque chose qu'on avait rapidement vu au squat du 920 de la Chevrotière qu'on avait tenté de corriger. Puis je pense que c'est normal de... Pas que c'est normal que ça se reproduise, ces inégalités-là, mais en tout cas, c'est sain, en tout cas, de le voir, puis de voir que, justement, c'est pas parce qu'on s'extrait de l'État ou qu'on crée notre propre espace que ça se reproduit pas. Puis le défi, c'est de, un, accepter de voir ça, deux, de partager cette critique-là, parce que c'est pas beau ou facile à entendre, surtout entre occupants puis entre occupantes, puis après, de trouver des manières, des outils, des mécanismes pour essayer de... Parce que, dans le fond... Si on réussit un jour à faire cette révolution sociale dont on n'arrête pas de parler, bien, ces problèmes-là, on va les voir. Donc, pourquoi pas les confronter puis essayer de les dealer tout de suite?
Mm-hmm. Bien, au Québec, il y a quand même des initiatives super intéressantes qui ont été mises de l'avant. Entre autres, à Montréal, il y a un mouvement Décolonisons Montréal qui a été lancé dès qu'il y a eu des appels à la mobilisation le 15 octobre, donc pour le tout début du campement à Montréal. C'est un contingent anticolonialiste en appui aux manifestants et manifestantes d'Occupons Montréal qui a été mis sur pied par Cité sans frontières et Personne n'est illégal. Et puis, c'était un contingent donc qui était clairement antiraciste et anticapitaliste qui s'est regroupé pour faire une manifestation le jour du départ du campement. Il y avait aussi ce même jour-là, en parallèle, une lettre qui était distribuée qui s'appelle « Chers occupants et occupantes, une lettre des anarchistes », qui est la traduction d'une lettre qu'on espère qui avait le même titre en anglais, qui a été publiée par Crime Think. Et puis, donc, c'est des anarchistes, on ne sait pas trop c'est qui, je commencerai avec une
c'est des anarchistes
pour,
sans nom.
des anarchistes sans nom et dont le fier représentant sur la couverture du petit dépliant est un dude blanc, le poing dans les airs avec une calotte. On se tanne pas. Enfin, il y a quand même quelques points tout à fait intéressants dans leur lettre. Et puis, donc, je vous invite à la lire. Elle est disponible sur la librairie de Zine dont j'oublie le... site web, mais je sais pas si quelqu'un... Non, c'est pas grave.
On va le trouver après la chanson.
Voilà. Donc, qui nous rappelle que, premièrement, l'occupation, c'est rien de nouveau et qui nous amène la critique dont on vient de vous parler au sujet de l'occupation de l'Amérique du Nord depuis 500 ans. L'importance de la diversité des personnes qui forment le fameux 99% et du fait qu'il y a des inégalités sociales criantes au sein du 99%, pas seulement entre le 99% et le 1%. On nous dit aussi que le problème, c'est pas seulement quelques pommes pourries, comme tu viens juste d'en parler. Les problèmes et les inégalités sociales ont tendance à pas être abolis magiquement la minute où on se retrouve dans notre gang de 99%. D'ailleurs, on le voit parce que généralement, on se tient plutôt avec du monde du 99% plus qu'avec des gens du 1%. Bon, eux, ils ont aussi un point qu'on ne peut pas faire confiance à la police, donc directement en critique à une des prémices du mouvement Occupons à différents endroits. De même, il nous rappelle de ne pas fétichiser l'obéissance à la loi. Et puis, puis le fait que pour avoir une diversité de participants et de participantes, il doit y avoir aussi une diversité de tactiques. Et puis, finalement, il nous rappelle qu'aucun gouvernement, c'est-à-dire aucun pouvoir centralisé, ne fera jamais volontiers passer les besoins du commun des gens avant les besoins des puissants. On va passer en musique, puis oui. On reviendra sur ce sujet-là ensuite.
Tout à fait. On va écouter Netsanet Melesse. Donc, la prononciation est peut-être aléatoire. Et la chanson s'appelle Minujal. Donc, c'est très calme et très réflexif. Profiter pour rien faire ou réfléchir.
Menojan, Tawanjee menojan, Modern ma wada de naitanojan. Menojan, 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 Tawanjee menojan. Let's get kanji yanim lebi kortal.
sur les ondes de CKIA FM. Vous écoutez toujours Ainsi squat-t-elle.
Et on continue toujours avec les critiques ou les perspectives qu'on voulait vous présenter parce que, comme on le disait dès le début de l'émission, le mouvement des indignés est un mouvement multiforme, donc qui prend différentes couleurs et évidemment qui amène. Mais enfin, moi, je pense qu'on peut dire dans l'ensemble que c'est positif. Ça permet un brassage d'idées. Il y a une forme d'organisation politique un petit peu partout qui se passe. Malgré toutes les critiques qu'on peut avoir, je pense que ça demeure toujours positif quand les gens s'organisent. Et comme par hasard, évidemment, les critiques, les perspectives, comme Tiffaine l'a présenté avant la chanson, qui émergent, sont sur la question du sexisme, donc sur la question genrée et la perspective anticoloniale, la perspective raciale aussi. Mais c'est une chose de dire, ben il y a une représentation, c'est juste des mecs qui parlent ou c'est juste des blancs qui parlent, etc. C'est positif, c'est pertinent et même nécessaire de le faire. Mais oui, merci Jasmine. Donc Jasmine qui participe activement à l'émission. Et donc ce que je disais, c'est que c'est pertinent et même est nécessaire de le faire. Mais c'est intéressant de voir que moi, ce que j'ai décidé de présenter, c'est deux initiatives, donc de personnes qui avaient des critiques à faire, mais qui ont décidé quand même de s'inscrire, dans le fond, dans le mouvement, en amenant ces critiques-là, un peu comme Tiffaine, tu l'as présenté avec la gang à Montréal, de Décolonisons Montréal, plutôt que de dire, on le sait bien, c'est juste des petits blancs privilégiés, hey, 99%, c'est vraiment des gens, justement, qu'il faut vraiment élargir le spectre au maximum pour pouvoir dire qu'on est oppressé quand on inclut ces 99%, à un moment donné, c'est sûr que tu finis par être dans la gang des opprimés, en guillemets, mais plutôt de faire une manifestation, donc un contingent anticolonial qui participe, tout en amenant la critique, à la manifestation. Donc, première initiative que je voulais vous présenter, c'est Occupy the Hood. Donc, tout le monde, les mains dans les airs et la tuque aussi. Donc, Black Occupy Protesters Start Occupy the Hood. Donc, dans le fond, c'est ça s'est passé à Oakland. Le 10 octobre, une des premières actions à Occupy Oakland qu'il y a eu, ça a été de renommer la place de la mairie la place d'Oscar Grant. Donc, Oscar Grant, un jeune noir qui a été assassiné par la police. Puis ça avait vraiment soulevé ce cas-là, l'indignation, puis ça avait révélé encore une fois la brutalité policière à laquelle les jeunes noirs sont confrontés quotidiennement. Ça a vraiment fait le tour de YouTube. En fait, le cas d'Oscar Grant, c'est un des cas, entre autres, Angela Davis qui disait, c'était un des cas où on a pu voir l'utilisation de YouTube, des réseaux sociaux, d'Internet, comment ça a pu diffuser à la vitesse de la lumière ce cas de brutalité. En fait, c'est même pas une brutalité policière, oui, mais le gars, il est mort, donc on peut même parler d'assassinat. L'État assassine, comme Assassin nous le chantait il n'y a pas si longtemps. Donc, il y a eu cette action-là, le 10 octobre, renommer la place de la mairie, la place d'Oscar Grant. Donc, on pourrait se dire, ah ben wow, à Oakland, dans le fond, tu sais, ça se passe bien quand même, il y a la perspective, c'est pas seulement blanc finalement. Mais pour Darren Sand, la personne qui a écrit l'article dont je vous parle, c'était un maquillage un peu politically correct finalement, parce que même si le mouvement Occupy prône l'ouverture et l'inclusion, dans les faits, c'est presque exclusivement blanc, les personnes qui vont prendre la parole, comment c'est organisé donc au niveau de la répartition du pouvoir, etc. Même si, encore une fois, dans les faits, dès les premières, dans le fond, quand le mouvement Occupy Oakland a commencé, même s'il pleuvait, c'était majoritairement des Noirs qui étaient sur place, des Noirs et des Latinos. Donc, en réaction, dans le fond, à un peu comment ça se passait dans les assemblées, la prise de parole, etc., ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décidé de nommer leur espèce de contingent Occupy the Hood, donc occupons le quartier communauté. J'en discutais avec des amis, je sais pas comment tu traduirais ça, Tiffaine, toi, mais The Hood, le quartier, la communauté, on...
Ben, c'est un raccourci pour neighborhood, donc... Right, quartier. Ça serait vraiment le quartier, mais avec un petit twist qui est vraiment plus afro-américaine.
Exactement. Oui, donc, on continue, ce sera pas long, Jasmine. Donc, en réaction occupée de Hood, formée de militantes intéressées par la cause des Latinos et des Noirs. Comment ça s'est passé, en fait, c'est qu'il y a entre autres Rayson, qui est un organisateur communautaire, et Johari, qui est des connaissances des réseaux sociaux, qui a une plus grande connaissance des réseaux sociaux. Dans le fond, ensemble, ils ont décidé de créer sur Facebook, dans le fond, une page, puis il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui ont adhéré. Et La pertinence d'occuper de hood, dans le fond, pour eux, ça se résume dans cette phrase-là qui est en anglais et que je vais vous traduire en français texto comme ça. Ils disent, dans le fond, il va y avoir vraiment un gros problème dans le mouvement Occupy si les gens ne mettent pas de l'avant les liens qu'il y a, les connexions qu'il y a entre le capitalisme, le racisme et le sexisme. Ça va finir par exploser tôt ou tard. Donc, eux, dans le fond, disaient, c'est ça notre pertinence, c'est ça notre rapport, c'est pas une question de diviser le mouvement. Au contraire, c'est de le rendre plus fort dès le départ. Donc, ça, c'était la première initiative dont je voulais vous parler. La deuxième initiative, en fait, c'est carrément un appel, Call Out to People of Color, par Occupy Wall Street People of Color Working Group. Donc, dans le fond, eux, c'est un petit peu la même, ça se passe aussi à Oakland, c'est où ça brasse pas mal, en fait, hein, dans le mouvement Occupons, on va pouvoir en reparler avec Evelyne tout à l'heure. Donc, malgré la pluie, les Noirs étaient majoritaires, les Latinos, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, cet appel-là, donc, c'est un working group, donc c'est encore une fois un contingent, un groupe. C'est un appel qu'ils ont adressé aux gens qui veulent supporter le mouvement ou le joindre, mais qui se questionnent justement sur la sous-représentation, voire l'absence de voix haute que blanche. Et là, dans le fond, ce que je me propose de faire, sans vous le lire texto, c'est de vous résumer un peu ce qu'on trouve dans l'appel. Donc, ça commence en disant justement, ce message s'adresse à vous si vous vous sentez interpellé par le mouvement, mais qu'en même temps, vous avez des critiques, des réticences, vous vous dites, ouais, je me sens pas représenté tant que ça, donc, quoi faire? Donc, eux, ce qu'ils disent, c'est que le mouvement Occupy, oui, on peut le critiquer, puis ça, c'est une position qui est défendue par plusieurs militants, militantes que je connaisse, tu sais, donc, qui disent, c'est un mouvement de conscientisation historique, c'est mondial, ça se passe en ce moment, oui, on peut le critiquer, mais justement, pourquoi pas l'investir, parce qu'il se passe vraiment quelque chose, puis c'est le temps d'y donner notre couleur, en guillemets, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Donc, ce qu'ils disent, eux, c'est, soyons réalistes. La crise économique n'a pas commencé avec la crise des Lehman Brothers en 2008. Les personnes de couleur, les pauvres, vivent cette crise depuis la fondation des États-Unis et les communautés autochtones aussi. Nous savons depuis longtemps que le capitalisme sert des intérêts d'une minorité, d'une élite blanche, essentiellement composée d'hommes. Donc, ça, c'est une citation que je trouve vraiment intéressante où ils disent « La communauté noire sait depuis longtemps » que lorsque les 10 problèmes économiques nécessitent des mesures austères et qu'on demande à la population de se serrer la ceinture, nous sommes les premiers à perdre nos emplois, les écoles de nos enfants sont les premières à perdre leurs subventions et nos corps sont les premiers à être brutalisés, violés et emprisonnés. Donc, dans le fond, l'objectif du People of Color Working Group, c'est vraiment de former un mouvement inclusif, antiraciste, antisexiste, puis d'aller rejoindre les communautés de couleur, incluant les immigrants, les immigrantes, les travailleurs précaires, les LGBT People of Color. J'aurais eu besoin d'une traduction. Dans le fond, ça fait référence aux personnes gays, lesbiennes, transgenres, Marie.
Ouais, bisexuelles et transgenres.
Voilà, je voulais être sûre. Les communautés religieuses marginalisées comme les musulmans, les autochtones, pour lesquels, dans le fond, le mouvement Occupy, dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que pour eux, c'est un peu ce qu'expliquait Tiffaine tout à l'heure. Pour les autochtones, dans le fond, le mouvement Occupy s'ajoute à une occupation qui existait déjà. Donc, c'est comme s'ils avaient, pour eux, ça a été doublement décolonisé. Puis, c'est un petit peu le même, ça rejoint la première initiative dont je vous ai parlé. En conclusion, ce qu'ils disent, c'est que si le mouvement ignore les dynamiques de pouvoir qui tombent dans le même piège, que le mouvement féministe est déjà tombé dans ce piège-là en disant, entre autres, quand c'était la période des suffragettes, oui, on va accepter les demandes des femmes du Sud, on va mettre les Noirs en arrière parce que c'est pas le temps de diviser le mouvement. Même chose dans le mouvement syndicaliste où plusieurs syndicalistes, ben c'est pas tout le monde, mais dans le mouvement syndicaliste, plusieurs leaders disaient c'est pas le temps d'intégrer les revendications des travailleurs latinos, des travailleurs afro-américains, des travailleurs irlandais parce que là, c'est le temps de s'unir. Puis c'est ça, c'est pas temps d'avoir ces discussions-là. On l'a vu par la suite, tant pour le mouvement féministe que le mouvement syndicaliste, que ce type de réflexion où on prend l'unité, puis qu'on dit c'est pas le temps de parler de ces différents types d'oppression-là, ben ça affaiblit le mouvement. Donc, pourquoi pas apprendre justement des erreurs du passé de certains mouvements? Puis eux, c'est ça qu'ils disent. Si le mouvement ignore ces dynamiques-là de pouvoir, de privilège, l'intersectionnalité des discriminations, finalement, il va, dans le fond, reproduire les inégalités qu'il visait à détruire à la base. Donc, c'était un petit peu les deux initiatives dont je voulais vous parler parce que je les trouvais assez intéressantes. Puis, ce qu'on voit aussi émerger, j'ai pas d'exemple concret, mais je pense que c'est quand même important de rappeler que oui, il y a la perspective anticoloniale, mais aussi la perspective, évidemment, antisexiste qui demande et d'ailleurs, depuis la naissance du mouvement Occupy des Indignés, on voit différents groupes féministes qui prônent la majorité, dans le fond, de s'intégrer dans le mouvement, mais de vraiment amener cette critique-là parce que, encore une fois, on voit au niveau de qui parle, même dans les assemblées, bien, c'est sûr qu'on n'a pas été un peu partout, mais pour les assemblées proches de nous, on voit que c'est clairement problématique pour la division des tâches, pour la prise de parole. Donc, soyons vigilantes dans notre indignation, certainement.
Merci beaucoup, Hélène, pour ces deux initiatives. On continue en musique avec Aster Aweke. La chanson s'appelle Ichebelou. Donc, un peu toujours dans la même ambiance que celle d'avant. Continuez à vous indigner.
C'est déjà la fin de cette édition d'Ainsi Squat-elle à CKIA FM. Nous vous invitons à revenir avec nous la semaine prochaine. Nous serons en diffusion en direct lundi à 18h. Si vous voulez nous écouter en balado-diffusion, vous pouvez le faire à partir de notre site internet Ainsi Squat-elle avec des traits d'union. .org. Donc voilà, vous pouvez aussi nous écrire à ase@resiste.ca et on vous dit à la semaine prochaine. Restez à l'écoute de CKIA FM.